une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et oui, ça a changé. Et cette année, je me suis entouré d'une team de journalistes éco pour décortiquer avec moi encore plus de sujets. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Cathy Dogon. Elle travaille pour le magazine de pédagogie économique Pour l'éco, et cette semaine, elle va nous parler du danger des paris en ligne. Salut Cathy.
Bonjour Emmanuel. Oui, et plus précisément du danger pour une certaine population, les jeunes les plus défavorisés. Winamax, Betclic et consorts les ont ciblés, eux, très précisément, et il y a de bonnes raisons à cela. C'est important d'en parler maintenant, parce qu'on est à quelques semaines de la Coupe du Monde de football.
Le profil des joueurs ciblés, les stratagèmes des plateformes pour rendre les joueurs accros, les sommes engagées et la manne financière que ça représente, tu vas nous raconter tout ça dans cet épisode.
Les paris en ligne vont-ils ruiner notre jeunesse ? Ça prend une seconde de télécharger l'appli sur son téléphone et il y en a pléthore. Depuis l'ouverture à la concurrence en 2010, 18 opérateurs de jeux d'argent ont été autorisés en France. Parmi les plus connus, pour le pari sportif, on retrouve Winamax, Betclic, Parion Sport de la FDJ, Unibet.
On sait combien de gens y jouent à peu près ?
5,4 millions de personnes jouent activement en ligne en France en 2021 et le pari sportif représente 82% de ses comptes. Je tiens à préciser que j'ai téléchargé cette application pour cet épisode mais qu'aucune publicité ne m'avait ciblé, jamais. Mon entourage ne joue pas au jeu, mon profil ne correspond pas à la cible des plateformes parce qu'elle est très précise. Thomas Amadieu en a dressé le portrait. Il est sociologue et enseignant-chercheur à l'ESCA School of Management de Shanghai. Il a enquêté pendant 10 ans sur ce secteur et a sorti un livre en 2021 qui s'appelle « La fabrique de l'addiction aux jeux d'argent ».
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a non seulement les jeunes de 18 à 34 ans, ça parle aux jeunes, on parle aux jeunes, on les cible et c'est eux qui viennent au jeu. Ce qui est aussi très préoccupant, c'est qu'on a énormément de joueurs mineurs.
Pourtant, l'interdiction de jouer pour les mineurs est rappelée à de nombreuses reprises. C'est écrit avant même de créer un compte, en bas à gauche de l'écran, qu'elle est interdite aux mineurs. Dans le mail de confirmation du compte, l'opérateur de jeu précise même « ne faites pas jouer vos enfants ». Néanmoins, l'application nous tutoie, l'univers graphique reprend les codes de la bande dessinée, des joueurs de foot sont présentés comme des super-héros Marvel, un environnement dans lequel les jeunes générations peuvent facilement s'identifier. L'application est en partie conçue pour eux. Contrairement au site porno, pour accéder au pari, il faut scanner sa carte d'identité. Un adolescent pourrait très bien prendre celle de l'un de ses parents ou d'un ami. On peut aussi saisir ses infos, c'est l'option que j'ai choisie. Pour continuer, je dois fournir un justificatif de domicile, et tant que je ne le fais pas, je ne pourrai pas percevoir mes gains.
Mais alors, quelle est la position des plateformes vis-à-vis des mineurs ?
Les opérateurs de paris sportifs sont face à un dilemme. Le jeu d'argent souffrait historiquement de l'image vieillissante de la personne se rendant au casino. Le public cible approchait de la fin de vie. L'industrie a dû faire d'importants efforts pour rajeunir sa clientèle, notamment en modernisant le secteur. Et ces efforts ont payé. Les joueurs sont fidélisés plus jeunes et joueront donc plus longtemps. Cette habitude est ancrée très tôt dans leur quotidien et ça, c'est fructueux pour les plateformes de paris sportifs en ligne. En France, 3 parieurs en ligne sur 4 ont moins de 34 ans, selon le dernier rapport d'activité de l'Autorité nationale des jeux. Parmi les jeunes de 17 ans, 4 sur 10 avaient parié au moins une fois dans l'année, selon une enquête de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Le problème, c'est que les jeunes sont fragiles et bien plus susceptibles de devenir accros. La preuve à l'hôpital Marmottan. Il est spécialisé dans les soins et l'accompagnement des pratiques addictives. Cet établissement parisien a compté la part des moins de 25 ans parmi tous ses patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs. Les moins de 25 ans représentent 62% des patients. Si on continue notre parcours, on se rend vite compte que la jeunesse n'est pas la seule cible des plateformes. Thomas Amadieu.
Et si on regarde aussi la quantité d'heures passées sur l'activité et le profil du joueur, donc si son habitude est plus l'habitude du joueur est intense, et notamment chez les joueurs qui ont des problèmes d'addiction, on va retrouver un profil qui va être plus populaire et donc avec une surreprésentation de joueurs qui vont être notamment chez les ouvriers, les employés, les catégories socio-professionnelles populaires.
Donc quel est le profil des joueurs en quelques chiffres ?
Le joueur de paris sportif en ligne est un homme, jeune et urbain. Parmi les joueurs qui développent une dépendance au jeu, plus d'un sur trois est ouvrier. Un sur deux gagne moins de 1100 euros par mois. Les immigrés ou fils d'immigrés sont surreprésentés dans le public de ces plateformes par rapport à leur proportion dans la population globale.
Pourquoi les jeunes de banlieue ? Alors, il y a un enjeu pour les opérateurs, on l'a dit, c'est le rajeunissement. Il y a aussi un enjeu pour tous les opérateurs de jeu en général, qui est évidemment cette idée de rentabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur l'histoire des stratégies des casinotiers et des opérateurs de jeu. Dans les années, au tout début des années 2000, il y a un professeur d'Harvard qui avait été recruté par un casino américain qui s'appelle depuis le Caesars Palace et qui avait défini, en fait, en quelque sorte, la stratégie que devaient adopter les casinotiers. Et il expliquait, au fond, les casinos avaient tort de chercher à cibler les joueurs les plus riches, ce qu'on appelait les high rollers, ceux qui dépensent le plus parce qu'ils sont très riches. Et il expliquait, en fait, à partir de l'analyse des données, qu'il avait récupéré les données, il avait analysé, il avait dit, mais en fait, les joueurs qui nous sont les plus intéressants, qui sont les plus rentables, c'est plutôt les classes populaires moyennes. Le joueur qui va venir, qui va dépenser entre 100 et 500 dollars sur une session, mais qui va revenir une fois, trois fois, quatre fois, tous les jours, et qui va continuer comme ça pendant des années.
On ne connaît pas la répartition des dépenses selon les catégories de joueurs, plus ou moins réguliers, bien que les opérateurs disposent de ces données. La moyenne du chiffre d'affaires, par contre, s'établit à 303 euros pour l'année 2021, mais l'Observatoire des jeux a calculé, en 2017, qu'un parieur en ligne sur 10 dépensait plus de 2600 euros par an. Des événements sportifs, comme l'Euro en 2021 ou la Coupe du Monde en 2022, ont par ailleurs tendance à gonfler ces montants. Plus 44% de chiffre d'affaires pour les plateformes l'année dernière. Une année où les mises sur les paris sportifs en ligne ont atteint un niveau record. 7,89 milliards d'euros rien que pour la France. L'habitude, la régularité sont au cœur du modèle économique des plateformes. Et l'étape suivante de mon parcours sur l'application est intéressante à ce propos. Je suis invitée à fixer le montant maximum que je souhaite pouvoir déposer par semaine. Là, un dessin représente un homme tirant sur la poche vide de son jean. Il est situé juste au-dessus du bouton « Je valide ma limite ». Si j'ai réussi à passer cette étape au début, l'application me rappelle systématiquement de mettre un plafond.
Donc, finalement, quelle est la conclusion de cette analyse qu'il faisait ? C'était, il faut mieux cibler les classes populaires moyennes parce que c'est ces personnes-là qui ont le plus de chances de devenir des consommateurs loyaux. Et en fait, il utilisait le vocabulaire du marketing qu'il appelait le lifetime customer value pour faire simple les joueurs de banlieue. On va cibler une population à qui on peut vendre facilement un message qui est celui de la réussite par le pari, l'argent gagné facilement, le gain d'un statut social rapide.
Ce point souligné par Thomas Amadieu est très important. Pour attirer les jeunes, et particulièrement les jeunes de milieux défavorisés, majoritairement racisés, les plateformes de paris sportifs développent une promesse.
Cette promesse, c'est celle de l'argent facile ?
Exactement. Comme Thomas Amadieu le souligne, les plateformes jouent sur une corde sensible. Elles savent que les jeunes les plus défavorisés se sentent freinés dans la société. Ils ont le sentiment que le travail seul ne leur permettra pas de progresser socialement. Alors, tous les moyens sont bons pour sortir de cette situation, ou du moins pour essayer. D'ailleurs, lors de l'inscription, l'application installe rapidement un rapport étrange à l'ego. Elle valorise l'utilisateur. L'application me demande de choisir un pseudo, un nom qui claque pour briller en société.
Écoutez bien si vous voulez briller en société.
Elle me suggère automatiquement Courageux 526. Pourquoi pas ? Cette stratégie est aussi lisible dans le discours publicitaire des plateformes. Vous avez forcément entendu cette pub de Winamax qui a commencé à circuler en juillet 2021.
Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect.
L'autorité de régulation, on reviendra plus tard sur son rôle, a été contrainte de réagir. Elle a demandé son retrait, mais sa décision est intervenue un an après la diffusion. Le motif, je cite, « Cette publicité véhicule le message selon lequel les paris sportifs peuvent contribuer à la réussite sociale, ce qui est interdit. » Dans la vidéo, un jeune homme reçoit une notification sur son portable. Il vient de gagner un pari. Il a la vingtaine, porte un gilet à capuche, les cheveux rasés courts. Il avance avec sa mère dans un couloir de HLM à la lumière jaune et l'invite à rentrer dans l'ascenseur. Cet ascenseur, ce n'est ni plus ni moins que l'ascenseur social. Il élève alors la daronne jusque dans un avion. Avec cette punchline, grosse cote, gros respect, gros gain. Pour la comprendre, il faut rentrer dans le détail du fonctionnement de l'application. Quand on accède enfin au pari, l'application nous affiche les événements sportifs en cours. Le football est de loin la discipline sportive qui génère le plus de paris. Dans le top 7 des compétitions ce jour-là, seuls deux concernent un autre sport, le tennis avec l'US Open. Il y a néanmoins la possibilité de basculer sur une autre des 20 disciplines proposées, comme le cyclisme ou le football américain.
Au fond, on pourrait faire un parallèle entre le pari sportif et éventuellement un investissement boursier. Il y a cette idée que le pari sportif, c'est un jeu d'habileté dans lequel celui qui a des compétences, et en l'occurrence, c'est des compétences de supporters de foot, des connaissances dans le football, des connaissances dans le sport, etc., est censé pouvoir à coup sûr gagner. Donc, il y a cette idée. Alors, évidemment, on sait que c'est très souvent exagéré par le joueur qui s'exagère son habileté, qui pense qu'il a plus de compétences qu'il n'en a réellement. Mais il y a clairement cette idée-là qui est mise en avant par les paris sportifs.
Ce jour-là, l'Union Berlin rencontre le Bayern Munich en cinquième journée de la Bundesliga. La plateforme est très dynamique et affiche en temps réel les résultats des matchs, tout un tas d'indicateurs de performance des deux équipes ainsi que l'évolution des cotes. À la mi-temps, 33 paris sont en cours. Ça me paraît peu, pourtant c'est le premier match qui apparaît sur mon écran. 8 paris portent sur le résultat final, 4 sur le nom des buteurs, 1 sur le score exact, 2 sur l'écart de buts entre les deux équipes. On peut aussi parier sur le total des buts, le nombre de buts par équipe, la tranche de 10 à 15 minutes pendant le match où le troisième but sera inscrit, et enfin, des paris combinés. Lors d'un pari combiné, on fait des pronostics sur plusieurs matchs en ne misant qu'une seule fois, mais attention, on gagne seulement si tous les pronos se révèlent justes. C'est très risqué, mais tentant parce que les cotes sont exponentielles, donc le gain potentiel est plus gros. En continuant ma navigation, un item attire mon regard, les cotes boostées. La grosse cote boostée, Auxerre, Marseille, à 17h. Le site incite à faire ce pronostic. Marseille marque le premier but. Si je parie et que je gagne, ma mise sera multipliée par 2 au lieu de 1,4. Un classique selon Thomas Amadieu.
Les opérateurs de jeu utilisent des stratégies pour ce qu'on appelle des dark nudges. Vous savez, un nudge, c'est donc une stratégie de manipulation douce à l'insu du consommateur ou du citoyen pour l'orienter vers un comportement. Alors, au départ, ça avait été théorisé comme quelque chose de positif, donc le nudge. Hein. Et là, en l'occurrence, on parle de dark nudge parce que c'est un peu le versant sombre de ces pratiques. Et donc, l'idée, c'est d'orienter, de se servir des biais cognitifs, donc des erreurs de raisonnement, parce que l'être humain est assez désemparé parfois face aux probabilités, face au hasard. Et donc, les opérateurs de jeu en ont bien conscience et mettent ça à leur. Essaient d'utiliser cela de façon à leur profit. En moyenne, les joueurs doivent être perdants contre le bookmaker.
Le bookmaker, c'est cette personne qui, dans les courses hippiques, inscrivait les pronostics des joueurs sur un carnet. Par extension, ce terme définit aujourd'hui un opérateur de jeu qui propose une cote sur un événement possible lors d'une rencontre sportive.
Mais de fait, il existe des joueurs qui sont relativement habiles, arrivent à avoir un certain nombre de bons raisonnements, à essayer de minimiser leurs risques. Alors après, ce qui est intéressant et amusant, c'est qu'il y a beaucoup de conflits entre les opérateurs de jeu et les joueurs. Et en gros, les joueurs les plus habiles, ceux qui gagnent, seraient identifiés par les opérateurs de jeu comme à risque. Et donc, tout est fait pour essayer de les limiter, de limiter leur possibilité de continuer à jouer.
À l'inverse, l'application montre à ceux qui perdent qu'ils ont perdu de peu, qu'ils ont presque gagné, que s'ils s'améliorent en pronostic, ils gagneront plus. Bref, qu'il y a de l'espoir. Pour ça, il faut continuer à jouer. Alors les plateformes les incitent à revenir régulièrement en leur envoyant des notifications. Elles leur offrent même des free bets, des paris gratuits au cas où l'argent commencerait à devenir un frein, et surtout pour qu'ils ne perdent pas l'habitude de jouer. À cela, il faut ajouter la pression sociale. Le pari s'est immiscé dans les groupes de copains. Jouer est devenu un rituel lors d'une rencontre sportive. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs comme McFly et Carlito sont rémunérés par les plateformes pour rappeler à la cible, toujours les mêmes jeunes défavorisés, de jouer.
Et pour ces matchs, regardez, on a des beaux maillots floqués avec nos noms et nos numéros derrière, mais aussi avec un vrai sponsor comme les vrais matchs.
Donc c'est le leader du pari sportif en ligne, évidemment.
Donc c'est trop bien, au lieu d'aller dans d'autres sites, vous allez tout faire sur Winamax.
Thomas Amadieu.
Ça signale aussi un problème plus général dans la relation entre les joueurs et les opérateurs, et une relation qui n'est pas forcément très, très saine, très éthique, puisque en fait, que crée la promesse qui est faite par les opérateurs de jeu, en gros, devenir riche, gagner un statut, gagner le respect, etc., bah, ils se confrontent à un mur, c'est le mur de la réalité.
À quel moment le plaisir de jouer se transforme en cauchemar ?
C'est difficile à mesurer parce que très subjectif pour chacun des joueurs. On a posé la question à Sophie Massin. Elle est professeure des universités en sciences économiques à l'Université de Lille, spécialisée dans la mesure du bien-être, spécifiquement dans le cas des addictions.
Là, on s'appuie sur l'enquête Baromètre Santé 2019, qui avait un module sur les comportements et les pratiques de jeu. Il y a des grilles, quoi, des questionnaires avec un nombre de points qui est attribué en fonction des réponses des individus. Et voilà, en fonction du nombre, du score de chaque individu, on peut les classer. Alors, c'est des questions de fréquence de jeu, de montant dépensé, d'attitude, enfin, de sentiment par rapport à ces dépenses. Est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir trop dépensé? Est-ce que j'ai dépensé plus que ce que j'avais anticipé? Est-ce que j'ai été obligé de réduire d'autres activités pour assouvir mon activité de jeu? C'est des choses comme ça.
Pour rendre ces sentiments plus palpables, Sophie Massin a tenté de les traduire en euros.
Donc, de manière générale, les économistes ont un concept qui leur permet de mesurer le bien-être. Alors, ça s'applique au côté consommateur et au côté producteur. Donc, si on s'intéresse au côté consommateur, le concept revient à mesurer la différence entre ce que les consommateurs seraient prêts à payer au maximum pour acquérir un bien et le prix qu'ils payent effectivement pour consommer ce bien. Donc, ça nous donne une mesure en euros, enfin en unité monétaire en tout cas, qui permet voilà, d'avoir une mesure de la satisfaction, du bien-être qu'ils retirent de la consommation de ce bien. Donc, pour les joueurs qu'on qualifie généralement de problématiques ou excessifs, on a deux parties dans le surplus, une partie positive qui est apportée par les premiers euros dépensés en jeu, qui est donc comme classiquement un apport positif de bien-être. Et puis à partir d'un certain seuil, qu'on définit par rapport aux joueurs dits récréatifs, donc qui n'ont pas de problème d'addiction au jeu, le surplus devient négatif, donc la dépense en jeu en fait devient une perte de bien-être. Et l'agrégation de tout ça donne un surplus net qui permet de mesurer le bien-être des joueurs du fait de leur participation à ce marché.
À l'échelle du monde, ça représente un surplus négatif de 5 milliards d'euros pour les parieurs sportifs. Avec le poker, c'est la catégorie de jeu où le mal-être est le plus perceptible. Et c'est exactement là que se situe la manne financière pour Betclic et consorts. En 2019, 62,7% du chiffre d'affaires des plateformes était généré par des joueurs problématiques.
Donc si on compare la perte de bien-être subjectif à ce que les joueurs auraient pu faire d'autre avec leur argent, ils s'appauvrissent tout en devenant plus malheureux. Les paris sont donc des activités nocives, même pour la santé. Mais ils restent autorisés par la loi.
Ils sont néanmoins réglementés. Les mineurs n'y ont pas droit, la publicité est très encadrée, et le gouvernement tente d'instaurer des pratiques vertueuses à travers un principe un peu nébuleux, le jeu responsable.
D'une part, parce que l'autorité des jeux n'est pas dotée de moyens très importants, il n'y a pas des équipes infinies, et les moyens ne sont pas très élevés comparés à la taille du marché. Et puis, il y a par ailleurs une logique d'ensemble qui est plutôt de favoriser cette offre dite encadrée, canalisée, plutôt qu'une approche plus restrictive de l'offre. On va dire que la France est plutôt dans une logique un peu plus anglo-saxonne, on va dire, d'inspiration plutôt libérale, où on cherche à favoriser le marché, à plutôt favoriser un développement de l'offre légale, avec l'idée qu'une offre légale, c'est protecteur. Mais globalement, l'idée, c'est quand même plutôt de reporter la responsabilité sur le joueur, qui est responsable de sa consommation, et l'opérateur de jeu, de cette façon, montre qu'il a fait quelque chose.
À chaque fois que j'allais pour parier, je pouvais lire sous les cotes un paragraphe écrit en tout petit sur la procédure à suivre pour se faire interdire de jeu. C'est un des moyens de l'Autorité nationale de jeu pour bloquer l'accès des joueurs aux plateformes et ainsi lutter contre les risques d'endettement, d'isolement et de dépendance. Avec un numéro vert que je donne au passage, 09 74 75 13 13.
Attention, jouer comporte des risques.
Mais à force de répétition, ce message s'inscrit dans le graphisme de l'application. On ne le lit même plus.
Moi, ce que je remarque, c'est quand même que c'est assez sous-optimal ces outils qui sont utilisés, certes, mais assez peu, et qu'on pourrait faire beaucoup mieux, notamment en identifiant en temps réel, les opérateurs le savent, une session de jeu qui déraperait, par exemple. Ou un joueur qui, sur les dernières semaines, les derniers mois, perd totalement le contrôle en dépensant plusieurs milliers d'euros, par exemple. Donc ça, on peut le voir. Et les opérateurs de jeu savent l'identifier. Donc on pourrait, à ce moment-là, déclencher des alertes automatiques. Et pour ça, il faudrait que l'autorité des jeux définisse l'obligation et explique voilà, il y a une obligation, je ne sais pas, de mettre en place une fenêtre pop-up qui s'ouvrirait, qui bloquerait l'écran et qui expliquerait aux joueurs qu'il faut qu'il fasse une pause ou qu'il doit peut-être réfléchir à se faire interdire ou ce genre de choses, quoi.
Finalement, ce qu'on constate, c'est que l'industrie du jeu a cherché à gagner de nouvelles parts de marché. Elle a dû se moderniser, techniquement, mais aussi dans son marketing. Et les victimes de cette nouvelle stratégie, c'est la jeunesse. Particulièrement celle qui est la plus défavorisée, qui a la vie devant elle pour parier, mais qui a surtout de bonnes raisons de jouer, ou en tout cas d'espérer gagner. Les pouvoirs publics ont du mal à réguler cette activité. Déjà parce qu'elle est fructueuse pour l'État, mais surtout parce qu'ils sont dans une optique libérale. Si le jeu n'était pas autorisé, il existerait tout de même de façon souterraine. Reste à savoir si les prochains événements sportifs serviront de prise de conscience pour mettre en place de véritables barrières et ainsi mettre à mal l'addiction aux paris sportifs.
Si je comprends bien, les paris en ligne ruinent déjà notre jeunesse, mais il y aurait moyen de mieux les encadrer. Et en tant que prof, j'y serais très favorable. Merci Cathy pour cet épisode hyper instructif, le premier d'une saison qui, vous le verrez, va renouveler notre programmation et aborder des tas de nouveaux sujets. Et si vous aussi vous avez aimé cet épisode, et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Cathy Dogon, en compagnie d'Emmanuel Martin, chargé de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Xavier Kamaki, prise de son, montage et mixage Adrien Bricaria à l'arrière-boutique studio, directrice des productions Marion Gournon.